14h03 sur France Inter, tout de suite la tête au carré avec Mathieu Vidard.
Bonjour Thomas Pontillon, est-ce que vous acceptez de vous livrer une petite expérience pour nous?
Je veux bien, je vais essayer.
Parce que nous allons parler des odeurs dans un instant. Notre invité Roland Salès est en train de vous ouvrir une petite boîte. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous sentez, s'il vous plaît?
Ça sent le renfermé, on va dire.
Pas plus.
C'est pas plus.
Pas plus? Pas plus, non.
L'odeur vous semble acceptable?
Pas agréable, en tout cas.
Ah oui, c'est
pas agréable.
Ça pue.
Ça pue, voilà. On peut dire ça comme ça.
C'est de l'androstérone.
Sténone,
pardon. Et c'est épouvantable, Roland Salès.
Oui, pour ceux qui le sentent, c'est épouvantable.
Oui,
pour ceux qui ne le sentent pas, comme moi,
voilà.
Je reste...
Mathilde Laurent non plus ne sent pas cette odeur.
Non plus, pour moi, c'est juste une boîte en plastique qui sent le plastique.
Alors moi, je l'ai senti comme Axel, d'ailleurs, tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a les gènes de l'andro...
Du récepteur de l'androsténone.
Voilà.
Et c'est le récepteur olfactif dans notre nez.
Bon, et c'est un plus ou pas le fait de l'avoir ce gène ou...
Vu que ça sent très mauvais, c'est pas vraiment un plus.
Bon, ok, merci Thomas pour votre participation. Vous revenez à 15h après vous être nettoyé le nez. Des odeurs donc, mais aussi des fragrances, mardi dans la tête au carré pour emprunter ensemble la voie de l'olfaction, du nez au cerveau. L'odorat est un sens qui nous permet de distinguer des dizaines de milliers d'odeurs différentes. Et nous allons nous intéresser non seulement au mécanisme du cerveau pour décrypter les odeurs, mais aussi à la création de parfums par ceux donc qu'on appelle des nez. Et j'attends dès maintenant vos questions et vos messages qui arrivent déjà sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. À la une de la science aujourd'hui, Axel Villard, l'astrophysicien Stephen Hawking qui propose une nouvelle solution au mystère des trous noirs.
Oui Mathieu, et d'ailleurs un mystère théorique vieux de 40 ans qu'il avait lui-même énoncé. On plonge dans l'horizon des trous noirs dans un instant avec vos questions sur Twitter, hashtag l'attaque.
Le trou noir a-t-il des odeurs? Ça on ne sait pas.
Alors ça,
on
c'est
posera
très
la question à notre invité. Voilà pour le sommaire de cette tête au carré réalisée par Stéphanie Texier et préparée aujourd'hui par François Mercier avec Margot Dullard.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Un monde d'odeurs, donc, cet après-midi, avec mes invités, la créatrice de parfums Mathilde Laurent et le biologiste moléculaire Roland Salès. Roland Salès, les dysosmies, ce sont les troubles de l'odorat. Je l'ai appris en lisant votre livre. Un quart de la population en serait touchée, justement, en serait atteinte. Qu'est-ce qui perturbe le plus notre système olfactif?
Ce qui perturbe le plus, c'est sans doute les anosmies, c'est-à-dire vraiment la privation totale de l'odorat.
Oui.
Alors ça peut être temporaire, des fois quand on a un gros rhume, on se plaint de ne plus avoir de goût.
Oui.
En fait, on n'a plus d'odorat, simplement parce que l'air n'arrive plus au niveau de notre nez, au niveau de l'épithéle olfactif, qui est l'endroit où on sent les odeurs. Et dans ce cas-là, c'est réversible le plus souvent. Mais il y a quelques fois des atteintes virales, donc si le rhume est un peu trop méchant, qui peuvent détruire cette muqueuse olfactive, et là, on perd définitivement l'odorat.
Et c'est un véritable handicap, hein,
c'est un grand handicap, oui.
Les
gens deviennent même un peu dépressifs, enfin, c'est vraiment très difficile à supporter.
Mathilde Laurent, est-ce que parfois vous manipulez des molécules dangereuses lors de création de parfums?
Alors, dangereux, ça dépend ce qu'on entend par dangereux. En fait, si vous entendez qu'ils sentent mauvais, oui. Et ça, c'est plutôt quelque chose qui m'importe.
Oui.
Maintenant, des vraies molécules dangereuses, non, surtout pas. Toutes nos molécules, tous nos ingrédients sont hyper contrôlés, hyper regardés par la science, justement, pour être inoffensifs.
Oui, je vous voyais réagir à l'actualité tout à l'heure avec ce mouvement « Vous puez » au Liban,
oui.
Avec le problème justement des ordures à Beyrouth. Hein. Et vous avez tout de suite réagi. Hein.
Oui, justement, moi je trouve que c'est très important de parler de la puanteur. Et la puanteur, pour moi, elle fait partie de la ville. Et vouloir cacher la puanteur ou vouloir cacher les odeurs comme on le fait à l'heure actuelle dans les villes en voulant tout odoriser, pour moi c'est très symptomatique d'une fuite en avant un petit peu par rapport à l'odeur et par rapport à l'humanité.
Oui.
C'est un peu nier son humanité et puis nier aussi sa propre pollution. Et
oui.
Je trouve que c'est plus important de traiter la pollution que de la couvrir par des bonnes odeurs.
Enfin, sauf que là, vous n'allez pas convaincre les habitants de Beyrouth qui s'ouvrent quand même particulièrement de ce qui se passe
non, mais ça,
chez eux en
non,
ce moment.
Non, bien
hein.
sûr, mais c'était vraiment... J'ai adoré le nom de ce mouvement parce que voilà, c'est important aussi de puer, justement.
Allez, on se retrouve dans un instant. On en reparlera, on aura l'occasion avec les messages des auditeurs sur franceinter.fr. À la une de la science, aujourd'hui, une nouvelle théorie sur les trous noirs présentée par Stephen Hawking.
Je propose que l'information d'un trou noir ne soit pas stockée à l'intérieur, comme on l'attendait,
mais à sa surface, dans son horizon, sous forme de supertranslation de cet horizon.
Voilà un extrait donc de la présentation de Stephen Hawking devant un florilège de physiciens, dont quelques prix Nobel. C'était en fin de semaine dernière à l'Institut Royal des Technologies de Stockholm. Et comme nous avons eu beaucoup de mal à comprendre les explications de Stephen Hawking, nous avons fait appel à celui qui va nous éclairer, Aurélien Barraud. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien au laboratoire de physique subatomique et de cosmologie de Grenoble. Vous travaillez également sur les trous noirs. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que pense avoir trouvé Stephen Hawking?
Déjà, je peux vous rassurer, nous avons, nous aussi, eu beaucoup de mal à comprendre ce qu'il voulait dire.
Ah, merci, c'est gentil, ça. Ça nous fait du bien.
Oui, oui. Alors, effectivement, le problème auquel s'attelle Stephen Hawking est en quelque sorte la suite logique du paradoxe qu'il avait lui-même mis en lumière il y a quelques 40 ans. Puisqu'il y a 40 ans, il a montré, et cela a fait grand bruit dans la communauté scientifique internationale, que les trous noirs étaient capables de s'évaporer. C'est-à-dire que, contrairement à l'opinion commune, à la doxa, les trous noirs ne sont pas réellement noirs, ils peuvent émettre des particules. Et ça pose un grand problème, parce que c'est incompatible au niveau structurel, fondamental, avec une théorie très bien établie qui est la mécanique quantique. Parce que cette évaporation ne conserve pas l'information. Autrement dit, les trous noirs sont comme amnésiques. Ils perdent le souvenir de les astres qui les ont formés. Et précisément, ce à quoi aujourd'hui Stephen Hawking entend apporter une réponse, c'est au paradoxe qu'il avait lui-même généré en mettant en lumière, dirais-je d'un point de vue mathématique, ce processus d'évaporation.
Donc ça fait 40 ans que les physiciens planchaient sur le problème posé par Stephen Hawking, c'est ça ?
Oui, sauf que je m'inscrirai en faux contre l'usage du passé que vous venez de faire. C'est-à-dire que la solution est loin d'être trouvée.
C'est ça.
Ça fait 40 ans que nous travaillons sur ce problème. Il existe des centaines d'hypothèses viables pour tenter d'en venir à bout. Et la proposition faite il y a quelques jours par Stephen Hawking n'est qu'une proposition parmi un grand nombre d'autres et elle ne jouit pour l'instant d'aucun primat dans la communauté des spécialistes.
Aurélien Barraud, de quoi parle-t-on quand on parle de l'information d'un trou noir ? C'est la matière qui l'aspire ?
Oui, en réalité, ce qui se passe, c'est que la mécanique quantique, donc cette théorie très bien établie qui décrit l'infiniment petit, nous montre que l'information n'est jamais perdue. Autrement dit, si je connais l'état final d'un système, je dois pouvoir retrouver quel était son état initial, ce qu'il fut dans le passé. Et c'est là où on a un problème. Parce que quand un trou noir s'évapore, il semble qu'il s'évapore toujours de la même manière, quels que soient les astres ou les objets à partir desquels il a été formé. Il s'inscrit donc en faux par rapport à ce théorème de conservation de l'information. Donc là, on fait véritablement face à un paradoxe qui nous interroge sur les fondements de nos compréhensions physiques.
Et donc cette information se trouverait à la surface, à la périphérie des trous noirs, Aurélien Barraud ?
Il y a beaucoup d'hypothèses dans la littérature scientifique qu'on peut ranger en de grandes classes sur où est stockée l'information. Alors peut-être, disent certains, est-elle véritablement perdue, et la mécanique quantique est fausse. Peut-être existe-t-il dans les trous noirs des sortes de BD univers, ce qui d'un point de vue formel est tout à fait loisible. Peut-être l'évaporation en réalité s'arrête-t-elle et l'information est-elle conservée dans quelques reliques. Peut-être existe-t-il une copie de l'information quelque part dans l'univers. Peut-être, ça c'est les modèles sur lesquels je travaille avec Carlo Rovelli et Francesca Vidotto, comme la mécanique, comme la gravité quantique nous le suggère, les trous noirs ne sont-ils qu'une phase de transition vers des trous blancs, c'est-à-dire des objets en rebond qui recrachent l'information, ou peut-être, comme l'a suggéré Hawking il y a quelques jours, l'information est-elle stockée à l'horizon ?
Ça fait beaucoup de propositions, tout ça.
Il y a beaucoup d'articles sur cette hypothèse.
Oui, donc on n'a toujours pas tranché, en fait. Hein.
On est loin d'avoir tranché. Je dirais que d'un certain point de vue, chaque nouvelle hypothèse ajoute encore un peu à la confusion, puisqu'actuellement, il y a beaucoup d'idées, mais il n'y a aucune corroboration expérimentale ou observationnelle qui permette de venir à bout du paradoxe.
Moi, j'aime bien votre idée de trou noir comme pouponnière des univers. Ça, j'aime bien, si je peux me permettre, mais... C'est assez joli.
Rassurez-nous, si on trouve une réponse, c'est une théorie qui s'appliquerait à tous les trous noirs ?
À tous les trous noirs et peut-être même au-delà. Je crois que lorsque la réponse sera trouvée, c'est en quelque sorte la gravité quantique, c'est-à-dire cette sorte de théorie Graal de la physique que nous recherchons depuis un siècle et qui permettrait de concilier d'une part la grande théorie d'Einstein, la relativité, avec d'autre part la grande théorie de l'infiniment petit, c'est-à-dire la mécanique quantique. Eh bien, je pense que quand la véritable solution au problème de l'information des trous noirs sera trouvée. C'est en quelque sorte la gravitation quantique qui sera enfin comprise. Et donc, au-delà même des trous noirs, c'est l'origine de l'univers qui entrera enfin dans le champ, dirais-je, de la physique comprise et sous contrôle.
Aurélien Barraud, il y a quelque chose d'amusant avec Stephen Hawking, c'est que tout le monde, justement, l'écoute, tout le monde commente la moindre de ses paroles, alors que pour l'instant, aucun article n'a été publié sur cette question, hein.
Oui, ça c'est un peu contrariant. En effet, il y a un effet d'annonce qu'aucun autre physicien au monde ne se permettrait. On en parle à la presse avant de soumettre l'article à publication scientifique. Au niveau déontologique, c'est un peu ennuyeux, je pense, oui.
Il y a quand même un effet bénéfique à l'effet Hawking, c'est qu'on parle des trous noirs quand même.
C'est vrai, je crois que c'est en cela d'ailleurs que votre émission, comme quelques autres, joue son rôle. C'est-à-dire qu'on prend prétexte de l'effet charismatique ou médiatique de la figure tutélaire de Hawking pour mettre sur le devant de la scène des problématiques scientifiques qui sont tout à fait légitimes et tout à fait centrales.
Est-ce que les trous noirs ont une odeur, s'il vous plaît, Aurélien Barraud?
C'est une très bonne question parce que figurez-vous qu'on le dit de façon comme une boutade, de façon presque exactement ainsi en physique théorique, on dit que les trous noirs n'ont pas de cheveux. Voilà. Ou n'ont pas de poils, suivant la traduction du No Hair Theorem en anglais. Alors cette absence de cheveux, ça veut précisément dire que les trous noirs sont les objets les plus simples de l'univers. Ils ne sont caractérisés que par leur masse et leur vitesse de rotation, ce qui signifie que les trous noirs sont plus simples que des particules élémentaires. Et ça fait partie du paradoxe. Comment peuvent-ils stocker une grande quantité d'informations alors même qu'ils sont extraordinairement simples? Et aujourd'hui, nous ne savons pas comment concilier, je dirais, la tension entre ces deux assertions.
Et donc, sans poil, le trou noir ne transpire pas. Voilà, donc on a eu réponse.
Le trou noir ne transpire pas, et pour notre plus grand plaisir, en tant qu'astronome.
Et on dit aussi que le vide interstellaire sent la framboise, si je m'abuse.
J'ignorais cette image, mais en l'absence de molécules, j'ai quand même un peu de mal à imaginer l'existence d'une odeur. Donc je crains qu'il y ait une petite supercherie dans cette assertion.
Merci beaucoup en tout cas Aurélien Barraud. On aura le plaisir de vous accueillir quand vous le souhaitez pour une émission sur les trous noirs dans la tête au carré. Merci pour vos explications en tous les cas.
Merci à vous.
Bonne journée.
Au revoir.
Dans le reste de l'actualité scientifique, c'est une première. L'industrie pharmaceutique va tester un médicament pour prolonger la durée de vie. Une étude publiée en 2014 par l'université de Cardiff montrait que les personnes traitées à la metformine, un médicament contre le diabète de type 2, avaient une espérance de vie supérieure de 15% par rapport au reste de la population. Le projet TAM vise donc à suivre pendant 5 ans 3 000 non-diabétiques de plus de 70 ans, traités ou non à la metformine. Le but affiché est donc de gagner 2 à 5 ans de vie. Presque tous les oiseaux mangeront du plastique d'ici 2050, c'est en tout le cas ce qu'affirme le scientifique australien Chris Wilcox. Son étude parue hier montre qu'aujourd'hui déjà chaque kilomètre de mer contient environ 600 000 débris polluants. Et en extrapolant ce chiffre, il prouve que dans moins d'une quarantaine d'années, 99,8% des oiseaux marins auront ingéré du plastique potentiellement dangereux pour leur santé. Et puis des souris à l'origine d'un potentiel traitement contre les acouphènes. Un Français sur 4 en souffre régulièrement de ces bruits parasites qui peuvent s'accompagner de pertes auditives. Dans une étude réalisée sur des souris, des chercheurs de l'université de Pittsburgh aux États-Unis ont découvert un mécanisme de résistance au bruit qui protégerait naturellement ces animaux. Cette découverte pourrait permettre la mise au point d'un traitement pour l'homme contre les acouphènes. Le pays des odeurs, c'est dans la tête au carré dans un instant. Tame Impala, notez bien ce nom avec Let It Happen et Thierry Dupin pour la programmation musicale de notre Tato Carré.
Oh, il pue des pieds, c'est une infection! On peut pas rester une minute de plus à l'intérieur!
T'en prie! Moi, j'ai rien senti de particulier!
Bonsoir, monsieur Bonsoir, Jean-Pierre!
Ah, tenez.
Mais ça sent bizarre ici, bon! Ça sent les pieds, non?
Oui, c'est possible. Bonsoir, Hilda, à demain.
Voilà, ça sent presque comme dans votre petite boîte, Roland Salès, tout à l'heure. L'odorat au cœur de notre tête au carré, les mécanismes de l'olfaction et puis le travail de création autour des fragrances. Mes invités donc, Mathilde Laurent, vous êtes parfumeur et créatrice pour la maison Cartier et vous publiez aux éditions Bayard un monde d'odeurs, c'est dans la collection Les Petites Conférences. Et puis Roland Salès, vous êtes ingénieur agronome à l'INRA, spécialiste en biologie moléculaire et cellulaire et vous avez dirigé le laboratoire de neurobiologie de l'olfaction à l'INRA, à Jouy-en-Josas et vous êtes l'auteur entre autres du livre « Faut-il sentir bon pour séduire ?» aux éditions Coyer, et je ne manquerai pas de vous poser la question tout à l'heure. Beaucoup de questions justement déjà sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Mathilde Laurent, un mot sur votre parcours pour devenir née. Quel est le cheminement classique? Vous avez un background scientifique au départ ou pas?
Oui, j'ai dû en fait avoir un background scientifique. J'ai dû faire de la chimie, un bac plus 2 en chimie, donc un bac scientifique, puis ensuite 2 années de DUG de chimie. Quand je suis rentrée dans la profession, la première chose que M. Garlin m'a dit, c'est d'oublier ma chimie. Donc j'ai fait ça avec assez de plaisir finalement, parce que ça avait été assez dur d'avoir un aspect scientifique pour ensuite plonger dans la création pure. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il faut passer par des études scientifiques. Pour moi, ça, c'est pas forcément nécessaire, mais c'est la voie aujourd'hui qu'on doit emprunter.
Oui. Roland Salès, est-ce que tous les nez se ressemblent? Je parle pas du nez du créateur, là, vraiment de notre nez à tous. Ou est-ce que quand même celui de Mathilde Laurent possède un petit quelque chose en plus?
Ah, c'est une question qu'on me pose souvent.
Ouais. Est-ce que vous pouvez nous décrire son nez d'ailleurs? Est-ce qu'il a quelque chose de... Il est très joli, le nez de Mathilde Laurent.
Vu de l'extérieur, je ne saurais dire quoi que ce soit.
C'est un nez fin qui n'a
effective, mais voilà.
Aucun signe de distinction.
Il n'y a pas besoin d'avoir un grand nez pour être ça, c'est clair.
C'est ça. Et ça, on a le nez, ça se voit comme le nez au milieu de la figure.
Mais
c'est pas pour rien que le nez est en avant de la tête. C'est parce que finalement, c'est le premier organe qui nous renseigne sur l'air qu'on respire, sur l'air d'une pièce. Par exemple, quand on rentre, c'est notre première impression. Et alors, chacun de nous a un nez différent. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de notre nez, nous avons des capteurs, des molécules spécialisées qui captent les molécules odorantes, que j'appellerais souvent odorants, et chacun de nous a un répertoire différent pour capter ces odeurs. Donc, a priori, aucun de nous au cours de cette table, et même parmi les milliards d'individus qui sont au monde, n'aurait le même équipement en capteur olfactif.
Donc nous avons chacun une bibliothèque à odeurs qui nous est propre, on pourrait dire les choses comme ça?
Tout à fait.
Ouais. Mathilde Laurent, donc vous qui êtes née pour cette maison Cartier, est-ce que vous sentez mieux que le commun des mortels quand même?
Alors moi, je considère que je ne sens pas mieux, mais que j'analyse plus. En fait, d'après mes constatations, en fait, un parfumeur sent exactement comme tout le monde. On ne sent pas une odeur de plus loin, on ne sent pas une odeur moins condensée dans une pièce, mais on analyse plus la manière dont on sent, et surtout le stimuli suscite plus de connexions cérébrales. Donc, pour moi, une odeur, ça a un son, ça a une image, ça a une couleur, ça a une photographie, et ça a aussi un potentiel, et ça a une destination. Alors que peut-être d'autres personnes qui sentiraient une odeur auraient du mal à la décrire, auraient du mal à la voir, auraient du mal à l'utiliser, à savoir quoi en faire. C'est vraiment ça la différence entre un parfumeur et quelqu'un qui n'a pas entraîné ni son nez ni son cerveau.
Est-ce que dans chacun des lieux où vous entrez, vous faites une sorte d'analyse, vous balayez comme ça les odeurs
pas
qui vous entourent ou pas?
Pas du tout, parce que justement, un parfumeur n'est pas obnubilé par les odeurs. Je perçois l'odeur d'un lieu, je vais m'y intéresser, mais elle va souvent passer inaperçue.
Si je vous demande de me faire l'analyse, justement, olfactive de ce studio, qu'est-ce que vous en percevez, tiens?
Ben, il sent le neuf, en fait.
Il sent le neuf,
ouais,
d'accord.
Il sent le neuf et il sent un peu l'électricité statique.
Oui.
Donc voilà, c'est une odeur assez minérale, en tout cas pas du tout...
Il y a du monde qui défile
humaine,
ici aussi, hein, depuis
florale,
le matin, très tôt, il pourrait y avoir de l'odeur de la sueur aussi,
mais
non?
Pas du tout, non, pour l'instant c'est vraiment l'odeur des calicots, l'odeur de la moquette, l'odeur du bois, c'est vraiment des odeurs très minérales et synthétiques.
Ouais. Donc quelques produits chimiques quand même que vous sentez bien hein, ici.
Pas, je dirais pas chimique, mais je dirais minéral en fait. Mmh. D'odeur de matériaux en fait.
Je n'ai pas le nez exercé de Mathilde Laurent. Et c'est vrai que pour moi ça sentait plutôt la colle vaguement.
Voilà, c'est ça.
Quelque chose comme ça.
Studio qui a 2 ans à peine maintenant, donc c'est vrai qu'il y a encore ces odeurs un petit peu persistantes. On pourrait dire de Mathilde Laurent, Roland Salès, qu'elle est un cerveau avant d'être un nez alors finalement.
Je pense que c'est ce que revendiquent souvent les parfumeurs créateurs, effectivement. Au niveau du nez, il n'y a certainement pas plus de performance que chez le commun des mortels.
Ouais.
Par contre, moi je prends souvent l'exemple des musiciens qui s'entraînent des heures par jour pour garder en main ou en tête leur musique. Moi, je pense que les parfumeurs que j'ai interviewés disaient tous qu'ils renouvelaient sans arrêt, qu'ils entretenaient leur bibliothèque olfactive dans leur tête. Et ça, c'est très important, parce que ça leur permet d'imaginer des odeurs sans les sentir. Ça, je trouve ça absolument remarquable. Et puis, comme Mathilde l'a dit, de développer les connexions nerveuses qui permettent ces performances.
Mathilde Laurent ?
Oui, c'est vraiment... on nous appelle souvent des nez, et c'est vrai que c'est un peu réducteur, parce qu'on ne dit pas d'un pianiste qu'il est une main, ni d'un musicien qu'il est une oreille. Donc nous, c'est vrai que c'est toujours un petit peu réducteur, mais ça permet aux gens de comprendre ce qu'on fait. Parce que si on dit parfumeur, en fait, c'est pour personne, c'est très clair. Mais c'est vrai que le travail de mémoire, le travail cérébral, le travail d'imagination, de conceptualisation est 10 fois plus important que la performance technique. Et on dit très souvent, par exemple, que les parfumeurs peuvent sentir 3000 odeurs différentes, les mémoriser et tout ça. Personne n'en sait rien, en fait. Ça, c'est vraiment du domaine de la performance presque sportive. Et ça n'intéresse personne, c'est uniquement du mythe.
Les parfumeurs auraient le cortex orbitofrontal plus épais que la population moyenne, ce qui expliquerait leur capacité olfactive plus développée.
C'est ce qu'ont trouvé des collègues de Lyon, effectivement, qui ont comparé des parfumeurs expérimentés avec la population générale. Et ce cortex orbitofrontal, qui est en fait la partie du cortex qui est juste au-dessus des yeux, de chaque côté du cerveau, eh bien, est plus épaisse chez les parfumeurs, même âgés, et même continue à s'épaissir avec l'âge, alors que chez la population de référence, cette épaisseur diminue. Ouais.
C'est ce qui était très marqué chez Néandertal, par exemple, cette
partie-là. Alors non, c'est surtout
là.
Pour les osseux chez Néandertal.
D'accord. Parce qu'on pourra trouver ça chez les parfumeurs aussi. Pourquoi je ne sens pas le parfum que je porte chaque jour, nous demande Julia. Alors ça, c'est la question qu'on vous pose
c'est
tout le temps.
C'est la question
sempiternelle,
je dirais.
Mais il faut y répondre quand même.
Moi, je vais y répondre comme un parfumeur. Je crois que le nez est fait pour s'habituer à tout. Et donc, c'est l'inverse qui serait complètement étonnant. C'est que quelqu'un qui porte un parfum depuis une semaine ou un mois continue à le sentir. Donc c'est vraiment... voilà. Et aujourd'hui, on a beaucoup de maisons, beaucoup de marques, je dirais, qui pensent que la puissance du parfum, du coup, devient un synonyme de qualité. Et c'est absolument désespérant parce qu'on en vient à faire des parfums qui sont des bombes et presque des gifles olfactives. Alors que quoi qu'il en soit, jamais personne ne continuera à sentir son parfum. Même si c'est une bombe
atomique. Il suffit de prendre les transports en commun le matin, par exemple.
Voilà, et j'ai beaucoup
c'est
de mal.
C'est une épreuve,
j'avoue.
Parfois.
Pour moi, quelque part, c'est plus ça la puanteur que l'odeur des poubelles.
Oui, on en parlait hors antenne juste avant que l'émission commence, justement. Certaines personnes ont l'impression de sentir des mauvaises choses, enfin, avoir autour d'eux, en tout cas, un environnement qui pue en permanence, Roland Salès. C'est un nom très particulier.
Alors, on
ça,
appelle ça la cacosmie, alors... Par référence, on peut parler de la cacophonie qui est d'entendre des bruits désagréables. Les gens sentent en permanence des odeurs qui leur semblent mauvaises, alors que les produits odorants ne sont pas là dans l'environnement. Ouais. Donc c'est vraiment un problème neurologique, c'est pas du tout un problème de nez.
Aimer ces odeurs mauvaises, enfin celles que nous, communs des mortels, nous percevons comme mauvaises, en tout cas Mathilde Laurent, vous dites à quel point c'est important justement de les apprécier aussi.
Tout à fait, parce que c'est les odeurs de la vie et qu'il n'y a pas de création sans... C'est comme si on se disait que pour faire un joli tableau, on va prendre que des jolies couleurs. Alors qu'un tableau, c'est souvent une reproduction réelle ou sublimée de la réalité et on a besoin de toutes les couleurs pour pouvoir décrire quelque chose qu'on l'ait imaginé ou qu'on le voit devant soi. Et en parfumerie, c'est exactement la même chose. Et le titre du livre de Roland dit très bien les choses. Faut-il sentir bon pour séduire ? Moi, je pense que justement, non. Et qu'il n'y a pas de séduction sans aussi les odeurs de la vie.
Ah, alors Roland Salès, votre avis sur la question, justement, répondez tout de suite à votre propre titre. C'est très subjectif.
Oui, alors c'est complètement subjectif. Alors je voulais dire une chose d'abord, c'est que par exemple, il y a beaucoup d'odeurs de fleurs, enfin de parfums de fleurs, qui sont composés avec des produits qui, par eux-mêmes, sont très malodorants. Le scatol, par exemple, comme son nom l'indique, ça sent le caca.
Bien, le scatol, il y a beaucoup de parfums de fleurs où il y en a un petit peu, et ça souligne très souvent, ça donne de l'ampleur, de l'épaisseur au parfum, et on apprécie ces odeurs.
Et c'est indispensable. Voilà. On ne peut pas reconstituer une fleur avec plein de molécules odorantes si on ne met pas, justement, ce scatol ou cet indole qui fait partie de l'odeur de la fleur.
Alors, faut-il sentir bon pour séduire? Eh ben, la réponse, elle est assez courte dans mon livre, parce qu'en fait, c'est oui et non.
Oui, et ça dépend des cultures aussi,
alors,
non?
Ça dépend des cultures, parce que là, c'est pareil. Ça dépend de l'histoire de chaque individu. Bien sûr, on s'entend plus ou moins sur des bonnes et des mauvaises odeurs dans une civilisation donnée, mais on peut très bien apprécier des mauvaises odeurs d'un partenaire amoureux ou des choses comme ça.
Intéressant de voir comment certaines cultures nous perçoivent justement, Mathilde.
Exactement, oui, oui, tout à fait. En Afrique notamment, par exemple, Roland me disait tout à l'heure que on dit souvent que les Européens sentent la mort, et moi j'avais lu dans un très joli article qu'on nous appelait les Yassa Yassa, je crois, si mon souvenir est bon, ce qui voulait dire les pus le beurre. Parce que c'est vrai qu'on mange du beurre en Europe et que finalement, on doit sentir le beurre pour ceux qui n'en mangent pas.
Voilà, mais les pulls le beurre attendent vos messages, en tout cas, sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque, parce que nous poursuivons ce dossier dans un instant avec Roland Salès et Mathilde Laurent. Le temps d'écouter Véronique Sanson. Tête au carré aux mille odeurs cet après-midi avec le nez, la créatrice Mathilde Laurent et le neurobiologiste Roland Salès. Vos messages, vos questions nombreuses, je vous les transmets dans un instant. Ah oui, il y a ce syndrome étonnant dont nous parle Marc quand même, le Fish Odor Syndrome. Est-ce que vous pourriez nous expliquer à quoi il correspond, demande Marc. Donc le syndrome de l'odeur du poisson, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est en fait l'odeur corporelle des gens qui est une odeur d'amine, c'est un peu d'ammoniac.
C'est des gens qui dégagent cette odeur-là?
C'est des gens qui dégagent cette odeur.
Ah, ça doit pas
être drôle. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de ce domaine, mais je sais que c'est un problème métabolique, c'est-à-dire qu'en particulier au niveau du foie, il y a des réactions enzymatiques qui ne se font pas, et il y a une élimination des produits de dégradation des protéines essentiellement.
Bien.
Alors, en général, on donne un régime pauvre en viande, ou en protéines pour diminuer cette odeur.
Combien de temps faut-il en moyenne pour créer un parfum nouveau, demande Lucie, Mathilde Laurent.
C'est vraiment très variable, ça dépend des maisons, ça dépend des marques. Certains parfums aujourd'hui sur le marché demandent 3 semaines de création parce qu'ils sont déjà un peu prêts en avance, parce qu'ils peuvent être utilisés par les maisons de composition en venant d'autres projets. Enfin, mais chez nous, en tout cas chez Cartier, on essaye d'y passer beaucoup de temps parce qu'on essaye de faire du parfum une vraie œuvre de l'esprit. Et donc chez nous, ça peut aller de 1 à 2 ans.
Et vous dites, vous décrivez votre métier en disant qu'il y a beaucoup d'errance dans cette recherche et dans cette création de parfums.
Tout à fait, c'est un métier, en fait, si on veut créer, en fait, il faut accepter l'errance, le découragement. C'est un métier qui est très fastidieux au quotidien, où on peut faire des centaines d'essais et puis avoir besoin de revenir en arrière et du coup jeter à la poubelle toute une semaine de travail. Il faut toujours garder la foi quand même dans ce qu'on veut faire, dans la vision qu'on a eu du parfum qu'on veut créer et qui nous attend à la fin du projet. Mais c'est un métier dans lequel il faut vraiment pouvoir supporter de ne pas savoir où on va.
Et justement, à quel moment vous savez que vous êtes arrivé à la fin du projet ?
Alors j'aime bien...
Parce qu'on peut toujours changer un parfum en permanence. Mais...
On peut tout à fait, mais normalement... Si on a imaginé un parfum au départ, normalement on ne doit pas commencer à travailler un parfum avant de l'avoir dans sa tête. Donc si on a ce parfum dans sa tête, normalement il est terminé quand on arrive à avoir ce parfum dans un flacon. Il n'y a que si vraiment on va au hasard, ce qui normalement ne doit jamais arriver, qu'on pourrait être complètement perdu et ne pas savoir ce qui est le mieux. Mais moi j'aime bien aussi, je dis souvent que j'aime bien, une fois que j'ai le parfum que j'ai voulu avoir, j'aime bien aussi qu'il me dépasse et qu'il y ait une espèce d'harmonie, une espèce de délicatesse, de force qui se met en place et qui me dit, qui me montre que je ne peux pas faire mieux. J'ai beau essayer de rajouter encore quelque chose, ou d'enlever, ou d'épurer, ou de polir. Finalement, le parfum me dit, tu ne peux pas faire mieux, voilà, je suis équilibré. Et cet équilibre, c'est un peu comme l'entropie. C'est comme si cet équilibre vous montrait qu'il est idéal.
Donc là, il y a le clap de fin.
Ouais,
et exactement. Avec vos équipes, vous êtes d'accord pour dire maintenant on arrête ?
Souvent, ce clap de fin, il arrive à peu près en même temps pour tout le monde. En fait, les équipes sont à l'aise depuis déjà un mois ou deux. On est dans le fine-tuning, ce qu'on appelle le fine-tuning. Et au bout du compte, finalement, quand il y a une évidence, justement, cette évidence, si tout le monde la sent, c'est qu'elle est vraiment réelle.
Roland Salès.
Oui, pour avoir travaillé ces dernières années sur la création dans l'art olfactif contemporain, je pense que là, Mathilde vient de donner la parfaite définition d'une œuvre d'art. Ce qu'on refuse traditionnellement au parfum, alors que c'est vraiment un travail d'élaboration, un travail de l'esprit, et qu'il y a un moment où la conjonction de la matière et de l'esprit, on dit c'est ça. Et chez tous les parfumeurs que j'ai rencontrés, c'est exactement ça. Moi, je trouve ça très émouvant. C'est Eureka, j'y suis quoi.
Oui, et puis c'est vraiment une forme, c'est une intuition en fait. Et ça, c'est très intéressant par rapport à la définition d'un parfumeur. Est-ce que le parfumeur, ça n'est pas quelqu'un justement qui intuite des choses impalpables par rapport au parfum?
Si nous partions à Grasse, Mathilde Laurent.
Oui, on peut.
C'est un des hauts lieux quand même pour le monde de la
parfumerie. C'est un des hauts lieux, il faut savoir que c'est un des hauts lieux de la fabrication d'ingrédients. Mais que la création, c'est toujours faite à Paris, aujourd'hui aussi à New York et dans toutes les grandes villes du monde. Et Grasse est vraiment le très haut lieu de la préparation des ingrédients et des plantes à parfum.
Et ça ne date pas d'aujourd'hui, comme en témoigne cette archive de 1939.
Cette industrie éminemment exportatrice occupe une population ouvrière importante, tant par le façonnage et la présentation que par la fabrication. Après la cueillette, les fleurs sont distillées en autoclave. Il ne faut pas moins de 3000 kg de fleurs pour obtenir 1 kg d'essence, qui, envoyée de la Côte d'Azur à Paris, est distillée et mise en flacon. Rappelons que c'est en France qu'est né le flaconnage de luxe, qui a conquis le monde entier. L'outillage a atteint chez nous une perfection qu'il est utile de faire connaître hors de nos frontières. C'est au milieu d'un véritable jardin de fleurs que Grasse, centre de cette industrie, étage ses toits mangés de soleil.
Voilà, petite carte postale d'époque pour décrire Grasse. Ça fonctionne à peu près toujours comme ça, ou les choses ont beaucoup changé?
Oui, ça fonctionne toujours comme ça. Bon, la science a fait aussi beaucoup de progrès, donc il se passe aussi beaucoup de choses sur la synthèse, et voilà.
Florence demande, est-ce que des technologies, Roland Salès, existent pour mémoriser les odeurs comme un appareil photo le ferait pour la vue?
Pour le moment, non.
On n'a pas encore réussi ?
Non, non.
C'est extrêmement complexe, non ?
C'est extrêmement complexe et la mémoire olfactive des individus est sans doute très différente pour un même produit d'un individu à l'autre.
Oui.
C'est-à-dire, j'utilise sans doute d'autres neurones que vous ou moi pour mémoriser l'odeur du café, par exemple.
Alors justement, Marek nous dit, il m'est arrivé de me rappeler certains souvenirs une fois confronté à certaines odeurs. Y a-t-il une explication scientifique à ce type de souvenir olfactif ? Marcel Proust,
bien sûr,
a plein de choses à nous dire là-dessus.
On va toujours ramener la fameuse Madeleine de Proust. Effectivement, il y a une particularité de l'odorat, c'est que dans le cheminement du message olfactif à travers les nerfs, le message est d'abord traité par les zones de la mémoire et de l'émotion avant d'être traité par les zones de la conscience. C'est-à-dire qu'on peut réveiller des souvenirs, réveiller des émotions avant même qu'on sache qu'on a senti quelque chose.
Donc c'est le premier tiroir au fond. Hein.
Voilà, c'est ça. Et donc, ça, c'est quelque chose de capital, et c'est ce que visent finalement tous les artistes, c'est à réveiller ce cerveau qu'on appelle le cortex olfactif, qui permet justement d'avoir directement accès à vraiment aux émotions et aux mémoires.
Et il suffit que le tiroir s'ouvre une nouvelle fois pour que tout d'un coup, le souvenir rejaillisse.
Exactement.
En fait, ça fonctionne comme ça, hein, Mathilde Laurent.
Et c'est pour ça que la séduction par le parfum est très forte, parce qu'elle est irraisonnée, en fait. On ne choisit pas d'aimer une odeur, on peut avoir eu des dogmes d'éducation, mais quand on aime une odeur, c'est de manière absolument viscérale. On ne peut pas raisonner l'amour qu'on a pour un parfum ou l'amour qu'on a pour l'odeur d'une personne. Voilà, parce que c'est d'abord l'émotion et la mémoire qui sont mises en jeu, et seulement ensuite intervient la raison.
Et c'est une mémoire qui va nous suivre toute notre vie, nos cellules olfactives, effectivement, restent
toute la vie.
Fort, hein.
Elles durent toute la vie.
Alors, quel est le cheminement, justement, entre le nez et le cerveau ? Alors, ça laisse, racontez-nous un peu comment ça fonctionne.
Comment ça se passe ? Alors, dans le nez, on a les capteurs, ce que j'ai appelé les récepteurs olfactifs, qui sont des molécules qu'on fabrique nous-mêmes, et qui sont adaptées à recevoir des molécules chimiques qui flottent dans l'air, et que je vais appeler odorant. Ce n'est pas encore des odeurs.
Pas d'odeur, on parle d'odorant.
Une fois que ces molécules ont été captées, donc par des neurones, c'est-à-dire des cellules nerveuses, il y a une transformation finalement du message chimique de ces molécules odorantes en un message nerveux, message électrique, qui lui est compréhensible par le cerveau. Et à partir de là, on envoie le message électrique au niveau des bulbes olfactifs qui sont juste au-dessus du nez dans le cerveau. Et dans le bulbe olfactif se forme en quelque sorte une carte d'identité chimique des produits qu'on a sentis. Et là, le cerveau est capable de lire cette carte et donc, plus tard, de reconnaître ces odeurs. Alors d'abord dans ce cortex olfactif dont je viens de parler, où ça se produit de façon inconsciente. Et ensuite, donc, au niveau du cortex orbitofrontal, dont on a aussi parlé tout à l'heure, où là, on peut porter un jugement, dire ce qu'on a senti, exprimer par des mots ce qu'on a ressenti.
Celui qui est plus musclé chez Mathilde Laurent que chez nous, par exemple, hein, on est d'accord. Et alors, il faut beaucoup de temps pour le décrire, quoique vous l'avez fait très très bien et rapidement, mais dans la réalité, ça se passe en combien de temps ?
200 millisecondes pour atteindre le cortex olfactif inconscient, moins de 500 millisecondes pour atteindre le cortex orbitofrontal.
Ça, c'est fascinant.
C'est génial,
C'est depuis le nez jusqu'à l'information donnée, en tout cas l'interprétation donnée par le cerveau. Il y a combien de neurones qui sont dédiés justement à l'olfaction ?
Si je compte, un premier relais,
les comptez
deux
pas
relais,
tous, parce que...
il y a trois relais pour arriver à la conscience, et deux pour les niveaux inconscients.
Mais les neurones, ils sont nombreux quand même ?
Alors oui, ils sont nombreux. Dans le nez, on en a une dizaine de millions, 5 à 10 millions. Ensuite, dans le bulbe olfactif, ça se chiffre aussi en dizaines de millions. Après, c'est beaucoup plus réparti et les neurones sont moins nombreux dans le cortex olfactif, peut-être des centaines de milliers. Et alors, après, c'est très difficile à dire parce que le signal est traité par tellement de neurones dans différents endroits du cerveau que ça peut aller de 10 à 10 milliards.
C'est un feu d'artifice neuronal. En fait.
Oui,
c'est ça.
Quand on regarde ce qui se passe dans le cerveau des gens, quand ils ont senti quelque chose, d'abord, on ne voit pas la même chose de l'un à l'autre. Et les zones activées se déplacent sans arrêt, changent, prennent la moitié du cerveau, pas du tout. Enfin, c'est extraordinaire, un feu d'artifice. C'est tout à fait le mot de Mathilde.
Les récepteurs olfactifs humains sont nombreux, moins nombreux que chez certains animaux.
Oui, tout à fait. On a à peu près 400 gènes de récepteurs olfactifs, ce qui est déjà pas mal. Ça reste quand même la plus grande famille génique dans notre génome. Je rappelle qu'on a 22 500 gènes à peu près dans notre génome, comme tous les vertébrés. Et on a 400 gènes de récepteurs olfactifs. Alors les chiens, on en a un peu plus, 900.
Et les rongeurs, on en a encore plus.
Ah, hein. Les rongeurs, c'est presque les champions, 1200 à 1500. Oui. Le champion jusqu'à maintenant, c'est l'éléphant, 2000.
Ah,
on ne sait pas pourquoi. Enfin, on sait pas pourquoi.
C'est ça.
On vient de le trouver.
Ouais. Est-ce que certains récepteurs sont spécialisés dans la détection d'odeurs particulières ou pas?
Alors, il y a des récepteurs qui sont hautement spécialisés. Donc, tout à l'heure, je vous ai utilisé comme cobaye pour faire sentir de l'androsténone.
Je vous en remercie d'ailleurs.
Voilà. Donc là, on a une correspondance, un gène égale un récepteur égale un odorant. Mm-hmm. Mais par contre, il y a beaucoup d'odorants dans la nature qui sont perçus par plusieurs récepteurs. Et inversement, un même récepteur peut percevoir plusieurs odorants. Ça génère une combinatoire fantastique, quasiment illimitée, de domaines de perception.
Mathilde Laurent, une question de Philippe. Les parfums d'attirance aux phéromones sont-ils efficaces pour attirer quelqu'un?
Alors,
est-ce que
je
dans
ne
vos compositions, vous
pas.
Nous glissez des filtres d'amour, par exemple?
Non. J'essaye de mettre des filtres d'amour, mais olfactifs.
Oui.
Parce que les phéromones, finalement, je parle sous le contrôle de Roland, mais elles sont inconscientes. Et finalement, la raison, ce que j'ai lu sur les phéromones, en tout cas, c'est que la raison reprend le dessus à un moment. Donc, au bout d'un moment, le visuel, voilà, tous les sens, finalement, reprennent quand même leurs droits. On peut avoir un flash, on peut être guidé par les phéromones, peut-être quelques millièmes de seconde, mais ensuite, la raison reprend le dessus. Et donc, on ne peut pas sauter sur quelqu'un juste parce qu'il a la bonne phéromone.
Je me prépare. Pour sortir de Paris, on met le cap sur la Normandie. Laissons la vie laisser les soucis. Il était temps. Aujourd'hui, le ciel est d'azur.
La vitesse à l'ivresse. Koum sur France Inter.
La tête au carré.
Et c'est là où je veux en venir.
Au carré.
Je crois savoir où ils vont.
Sur France Inter.
Mathilde Laurent, créatrice de parfums, Roland Salès, neurobiologiste, pour parler du monde des odeurs avec deux ouvrages. Un monde d'odeurs, justement, c'est aux éditions Bayard, extrait d'une conférence que vous avez donnée, Mathilde Laurent. Et puis Roland Salès, faut-il sentir bon pour séduire, 120 clés pour comprendre les odeurs? C'est aux éditions Kouaé. Le théâtre olfactif, ça aussi, ça vous intéresse, hein, Roland Salès?
Ah oui.
Il y a des initiatives intéressantes, ça consiste en quoi? Racontez-nous.
Alors le théâtre olfactif, ça consiste en première approche à odoriser un spectacle de théâtre, on va dire normal.
Mm-hmm.
Mais par contre, il y a une vraie démarche là aussi de création, d'invention. C'est-à-dire que la diffusion des odorants est comprise comme faisant partie du spectacle, comme destinée mm-hmm. à éveiller non seulement l'intérêt, mais éventuellement des mémoires, des émotions chez les spectateurs. Alors ça marche ou ça marche pas, parce que chacun a son histoire personnelle par rapport aux odorants. Mais néanmoins, quand ça marche, on s'aperçoit que nous, dans nos enquêtes auprès des spectateurs, on a facilement un tiers de la population qui a découvert finalement qu'ils avaient un intérêt naturel pour sentir les choses. Comme ils n'ont pas les mots pour en parler, ils n'en parlaient pas. Mmh. Et les interviews leur ont fait découvrir cette capacité. Et pour les autres, ils ont découvert qu'on pouvait apporter une dimension supplémentaire au théâtre. On peut faire des clins d'œil. Il y a eu des mauvaises odeurs diffusées. Par exemple, une odeur de pied, on en parlait au début de l'émission. Et ben, les gens ont compris le clin d'œil. Donc moi, je trouve ça tout à fait intéressant. Il y a une piste à creuser, là.
Extrait, justement, de ce théâtre olfactif.
C'est doux, c'est convivial. C'est chaleureux, la bonne odeur de rassemblement humain.
Oh non, ça cocotte. Oh là là, une humanité parfumée, pomponnée, maquillée.
Enfin, derrière les artifices, vous sentez quand même les notes de fond, les notes de cœur. Elle a du fond, cette humanité. Elle a du cœur.
Subterfuge. Les cosmétiques ont pris le dessus. Qu'est-ce que vous voulez cacher? Votre identité? Vos odeurs corporelles? Votre propre signature olfactive? Qui êtes-vous?
Et oui, c'est vrai. Sous ces parfums que vous créez, Mathilde Laurent, eh bien, on masque au fond notre véritable identité olfactive aussi, hein.
Oui, on peut avoir cette démarche, mais on n'est pas obligé justement de vouloir masquer son odeur.
Mmh.
Moi, je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant de respecter son odeur et puis d'y associer un parfum. Mais je trouve que dans la société à l'heure actuelle, justement, on a trop compris que les odeurs corporelles devaient être masquées et qu'elles étaient systématiquement problématiques. Alors mmh. qu'une odeur corporelle d'une journée après une douche est pratiquement imperceptible et n'est pas du tout problématique.
Et là encore, tout dépend des cultures, Roland Salès. Hein. Vous citez vraiment des lieux sur le globe où l'odeur est mise en avant, au contraire, est vénérée.
Oui, tout à fait. Alors, évidemment, j'ai pas fait d'études là-dessus, mais j'ai lu mes collègues ethnologues qui ont travaillé sur ces populations. Il y a vraiment des populations où il y a une culture olfactive, c'est-à-dire qu'ils ont un véritable vocabulaire pour mmh. parler des odeurs. C'est un vocabulaire qui est très symbolique. Il n'est pas forcément en rapport absolument avec les produits qui sont sentis, mais néanmoins, ça donne une base à des échanges, même à des mariages. Enfin, c'est vraiment mmh. extrêmement important.
Vous citez l'Inde en particulier?
Alors, c'est des îles qui sont indiennes, mais qui sont dans l'océan Indien, où une population, les onges, ont vraiment une... Quand ils se rendent compte, ils se demandent comment va votre nez.
Ouais.
On ne dit pas comment allez-vous.
Ouais. Les questions des auditeurs. Nicolas sur Twitter. J'ai toujours pensé que mon odorat était plus faible que la moyenne. Je commence finalement à en douter, surtout quand je me rends compte de l'effet de certaines odeurs sur mon état psychologique. L'odorat ordinaire se mesure-t-il? Je ne sais pas si c'est sur Twitter, ça fait plus de 140 signes, ça, comme question.
Alors, il y a des méthodes, effectivement, pour mesurer l'acuité olfactive. Très souvent, les gens n'ont pas une réelle idée de leur capacité olfactive, disons, par rapport à la moyenne de la population.
Mmh.
Et puis, ça dépend fortement des produits. Tel qui sent fortement un produit, sentira peu un autre et inversement. Donc, c'est extrêmement difficile.
Bon, il n'y a pas d'étalons, alors.
Il n'y a pas d'étalons.
Véritablement.
Hein. Et je crois qu'il suffit d'avoir de l'intérêt. En fait, ce jeune homme, je pense, peut-être découvre un intérêt pour l'olfaction. Et du coup, il s'aperçoit qu'il sent mieux que ce qu'il croyait.
Mmh.
Bon, la plupart du temps, les gens qui m'ont dit « je n'ai pas d'odorat », c'était des gens qui finalement s'interrogeaient sur leur odorat parce qu'ils me rencontraient, parce qu'on discutait ensemble, mais c'était des gens qui n'étaient pas si intéressés que ça par l'odeur.
Mmh. Marie-Thérèse, je n'ai plus d'odorat depuis 6 ans et donc plus de goût. Y a-t-il un traitement de cette maladie? Et le lien sur le goût justement et l'odorat est très étroit.
Alors ce qu'on appelle le goût traditionnellement, en fait, c'est la combinaison de ce qu'on sent en bouche
qui est essentiellement sucré, salé, acide, amer, et puis bon, quelques goûts supplémentaires, et de ce qu'on sent dans le nez. Donc en fait, en général, quand on dit « je perds le goût », c'est surtout qu'on a perdu l'odorat, parce que la perception dans le nez est beaucoup plus riche qu'en bouche.
Ouais. Est-il possible de recréer n'importe quelle odeur synthétiquement, demande Nicolas.
Oui, pratiquement. Aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de photographie et d'odeur par rapport à la mémoire. Aujourd'hui, on peut photographier des odeurs grâce à la technique du Headspace. Donc, on peut vraiment aller prendre une fleur, aller prendre un fromage ou même un billet de 1 dollar. Et puis, capter son odeur sur du charbon actif, hein, sur des matières absorbantes. Mmh. Et ensuite, les analyser, ces odeurs, et pouvoir les recréer parce que cet appareil va donner la liste des molécules qui composent l'odeur. Donc ensuite, il suffit de recréer les molécules et on va pouvoir recréer l'odeur synthétiquement.
Larry demande, Roland Salès, est-ce que les recherches sur la pire odeur du monde sont toujours en cours ?
Alors je ne savais pas déjà qu'il y en avait. Je sais qu'il y avait des recherches sur l'odeur de peur, même pour utiliser sur les champs de bataille.
Alors c'est ça, racontez-nous.
Mmh. Mais ça a été abandonné parce qu'en fait ça ne marche pas. Ouais. C'est comme les gaz de combat, il faut faire très attention à la direction du vent. Mmh. Et puis d'autre part, comme d'habitude, une même odeur, les gens la sentent et ça leur fait peur peut-être, et d'autres pas du tout. Il y a eu une exposition à Bâle au printemps dernier, où Cicelle Tolas, une parfumeuse un petit peu provocatrice, avait tout un panneau avec des odeurs de peur d'individus. Personnellement, je les ai sentis. Pour moi, j'ai pas trouvé ça désagréable, en fait, ouais. La plupart du temps.
C'est la subjectivité, en fait, qui fait que, voilà, il n'y a pas de pire odeur au monde. Et justement, le travail d'un parfumeur, on me demande souvent qu'est-ce qu'il faut pour devenir un bon parfumeur. Justement, je crois qu'il faut abandonner tous ces dogmes de pire odeur, de meilleure odeur, d'odeur, de bonne odeur, de mauvaise odeur. Je crois que c'est ça le plus important pour devenir parfumeur. C'est de pouvoir tout utiliser, tout comprendre, tout s'intéresser à tout. Parce que tout est un matériau.
Il y a des études menées sur l'odeur du stress des étudiants en plein examen aussi, Roland Salès.
Oui, alors ça, l'odeur du stress est assez communicative. Bon, dans les populations animales, très nettement, chez les souris, les rats de laboratoire, ça marche très très bien. Chez l'humain, un peu moins bien, mais ça marche aussi.
Oui. On voit la subjectivité justement du monde des odeurs en lisant ce courriel d'Étienne qui nous dit « C'est pour ça que les andouillettes sentent aussi bon, mais franchement...
» Toutes les andouillettes ne sentent pas bon, hein.
Il y a une époque où je travaillais sur le porc, j'allais en abattoir de porc le matin pour prélever des produits.
Mon Dieu.
Et je pouvais pas manger des andouillettes à midi.
Oui,
à
j'imagine. Mais le soir, oui, c'était possible. Vous savez déjà le lendemain. Oui. Pourquoi les femmes enceintes ont souvent un odorat plus sensible, demande Anne. Est-ce à dire que l'odorat est une affaire d'hormones?
Je crois que oui. Mathilde, en tout cas, je l'ai vérifié. J'ai été enceinte deux fois. Et les deux fois, en fait, je n'ai pas eu d'hallucinations, ni senti de choses bizarres. Mm-hmm. Mais effectivement, j'étais encore plus discriminante que d'habitude.
Donc vous avez travaillé autrement, ça modifie vraiment votre
non,
façon
justement,
de...
Non, justement, en fait, ça ne modifie pas, ça amplifie. Justement, heureusement, j'ai pu travailler exactement pareil, parce que je sentais toujours pareil, mais je sentais
ça
comme
les
si
choses,
on avait monté le volume, en
c'est
fait.
C'est ça, oui.
Et donc ça, c'était vraiment très intéressant.
Vous avez aimé ça ?
Ah oui, c'était assez génial. Voilà, j'aurais bien aimé que ça dure.
Ouais.
Par contre.
Bon, bah, il faut faire d'autres bébés.
Ça,
alors, voilà.
C'était décrescendo, mais très lent. Mm-hmm.
Pourquoi, lorsqu'on souffre d'hyposmie suite à un rhume important, les quelques odeurs senties ne sont que des odeurs agréables ? Est-ce qu'il existe une rééducation de l'odorat ? Roland Salès, pour terminer.
Je ne suis pas sûr que ce ne soit que des odeurs agréables. Une rééducation de l'odorat, oui. Ça, même avec peu de récepteurs, je dirais, on peut effectivement réapprendre à sentir. C'est ce qui arrive en cas de chimiothérapie, par exemple. Les gens perdent des récepteurs olfactifs et ils sentent pas pareil après. Donc on se rééduque.
Allez, merci beaucoup à tous les deux. Et comme on a encore énormément de questions et plein de thèmes à aborder, on va ouvrir nos agendas. On vous réinvitera dans quelques semaines pour une nouvelle Tête au Carré. En attendant, on peut lire ce livre chez Bayard, Mathilde Laurent, Un monde d'odeurs. Et puis Roland Salès chez Quoi, faut-il sentir bon pour séduire ? Mathilde Laurent, est-ce que vous avez senti l'odeur du Fabrice Drouel tout d'un coup qui est arrivé dans ce studio?
Je me concentre, mais
tout à l'heure, il est là avec nous. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Mais il le prend mal parce qu'il n'a pas suivi la conversation. Donc.
D'abord, je le prends pas mal et en plus j'ai suivi la conversation. Ah, bon, ce qui me joue des tours. Quelquefois, je suis tellement concentré sur ce que disent vos invités que j'en oublie ce que je dois dire.
Affaire sensible. Donc je vous le rappelle, c'est dans quelques minutes après les.
Voilà,
infos.
C'est de 15h à 16h. Nous parlons aujourd'hui de la disparition de l'avion de la Malaysian Airlines il y a un an et demi. Vous rendez compte, il y a un an et demi, il n'y a pas un indice, on n'a rien retrouvé. Donc on ne sait rien. Et on en parlera avec Michel Polaco, notre spécialiste des questions aéronautiques. C'est un homme qui sait absolument tout sur les avions. C'est l'un des meilleurs spécialistes du PAF. Il est avec nous.
À tout à l'heure, Fabrice. Merci.